cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 14 février 96.
Continuez cette éthique chrétienne. Ceux qui n'ont pas encore compris le statut épistémologique de l'éthique chrétienne, qu'ils le demandent à leurs parrains. Parce que je ne vais pas revenir indéfiniment dessus, vous comprenez. Je ne peux pas avancer. Je comprends que c'est pas commode. C'est évident. Alors c'est pas parce que c'est pas commode que ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que ça n'existe pas. C'est pour essayer de comprendre. Voyez Bergson, qui parle des mystiques chrétiens. C'est quand même intéressant de voir ça. Voyez les anciens qui parlent de Socrate. Je peux essayer de comprendre que quelqu'un... Vous voyez, si je n'étais pas Dieu, on s'intéresserait à lui, c'est curieux ça. Puisqu'on s'intéresse à tous les fondateurs de religion. On s'intéresse à eux. Ils ne sont pas Dieu. Il semblerait que du fait que Jésus est Dieu, tiens, c'est pas pour nous. C'est une attitude, hein, c'est très vieux ça. C'est ce que Aristote dit lui-même ça, tu vois. Donc vous n'êtes pas si mal placé. Je peux pas souhaiter à mon ami de devenir Dieu parce qu'il ne serait plus mon ami. C'est l'humilité d'Aristote, ça. Ça lui permettra d'entrer dans le ciel. Parce qu'il respecte la transcendance de Dieu. Il vaut mieux ça que l'inverse. Mais d'être le bois qui veut avaler toute la doctrine du Christ en disant elle est humaine ou elle est rationnelle, je peux l'avaler, non. Un philosophe face à la béatitude des pauvres, un philosophe face à la parole de Jésus, des pauvres vous en aurez toujours, mais moi. Et plus que la béatitude des pauvres, parce qu'il l'a vécu d'une manière telle que personne ne peut le vivre autant que lui. Alors ça, c'est unique. Et uniquement dans sans ça, le philosophe devrait s'interroger. Comment ça peut être, ça? Et au fond, c'est ce que nous devons faire. Si nous faisons de la philosophie, nous cherchons la vérité. Nous devons nous demander, y a-t-il une vérité supérieure à cela? À celle que nous cherchons. Aristote, dans son éthique, ne parle pas de la pauvreté comme une béatitude. Non. Le Christ lui l'affirme. Il demande à ses disciples d'être comme cela. Quand il demande à ses disciples d'être de vrais disciples, de partir esprit. C'est un esprit qui s'incarne à travers ces pauvretés de fête. Mais c'est un esprit. Et c'est cela qui nous permet de dépasser le scandale. Comme au fond toujours. C'est tant qu'on comprend les choses matériellement que le scandale existe. Tandis que dès qu'on comprend les choses de l'intérieur, alors à ce moment-là, on commence à comprendre que l'amour peut réclamer la pauvreté. Et là, on trouve déjà un lien avec les philosophes tels que Platon, le banquet. C'est sûr que quand Platon dit que l'amour naît de la surabondance et de la pauvreté, Platon n'est pas du tout un Jean-Baptiste par rapport aux béatitudes de l'Évangile. Il n'est pas du tout un précurseur. Mais il souligne un problème important. Quand on décrit Socrate pauvre comme il le fait, il manifeste quelque chose de très grand. Ça prouve que Platon a dépassé le point de vue des apparences et a saisi une certaine intériorité. Parce qu'au fond, tout est là. La pauvreté apparente n'est pas agréable. Et on voit bien la manière dont Platon décrit la pauvreté de Platon. La pauvreté de Socrate, je veux dire. C'est pas attrayant. Mais si on comprend que l'amour rend pauvre et que pour que l'amour grandisse, il faut l'esprit de pauvreté, alors on commence à comprendre, on commence à découvrir qu'il y a quelque chose que nous devons essayer de découvrir. Ce lien entre l'amour et l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est l'opposé de l'esprit de celui qui veut posséder, accaparer. Posséder, accaparer n'est pas l'amour. C'est l'avoir. C'est mon bien. C'est mon bien. L'amour, au contraire, est extatique et porte sur le bien spirituel qui m'attire. Donc, l'amour me fait déloger de moi-même et implique nécessairement que je ne sois que je veux dépasser tout accaparement, toute possession. Posséder, c'est l'inverse de l'amour. Et c'est peut-être cela qui permet de saisir comment l'amour me rend pauvre. Alors comprenons l'amour spirituel à l'égard de quelqu'un qui me dépasse, me rend pauvre à l'égard de tout ce qui est inférieur à cet amour que j'aime, à ce bien que j'aime. Et quand ce bien que j'aime est Dieu, il me libère de tous les liens à l'égard des personnes inférieures à Dieu, de toutes les créatures et de tous les biens sensibles. Parce que ce lien avec Dieu, ce lien d'amour avec Dieu, suis libre à l'égard de tout, de toutes les autres. Donc, je suis pauvre. Je n'ai plus aucun lien de dépendance à l'égard de toutes les autres réalités. Alors, je commence à comprendre que la béatitude des pauvres, bienheureux les pauvres, ce n'est pas la pauvreté. cela qui est proclamé dans cette béatitude des pauvres. Des pauvres, vous en aurez toujours mémoire. C'est Jésus seul qui, dans son attraction d'amour sur moi-même, attraction qui se réalise dans la foi, l'espérance et la charité, me fait comprendre d'une manière vitale, intérieure, qu'il est le seul qui me libère de l'orgueil. Qu'il est le seul qui me libère de cet esclavage du péché. Et cet esclavage du péché me diminue et enlève ma dignité. Ma dignité d'homme. C'est très extraordinaire de comprendre que l'esclavage le plus terrible, c'est l'exaltation de moi-même. C'est l'orgueil. C'est me faire passer toujours devant tous les autres. Et c'est ça qui est la chose la plus terrible. Qu'est-ce qui me permet de lutter contre cet esclavage? C'est la béatitude des pauvres. C'est au fond quelque chose de très spirituel. C'est peut-être la réalité la plus spirituelle qui exige d'aller le plus loin possible dans le véritable amour spirituel. C'est ça qui est tout à fait particulier avec cette béatitude. Donc, comprenons bien que cette béatitude des pauvres n'est pas du tout au niveau sociologique. Ça n'a rien à voir avec la sociologie, mais rien du tout. Et dès qu'on confond cette béatitude des pauvres avec la sociologie, on n'a rien compris au Christ. On le considère comme faisant partie, lui aussi, de nos degrés de sociologie, de notre regard sociologique. Enfermer le Christ dans une sociologie, c'est affolant. Parce que c'est justement ne plus regarder du tout en lui, celui qui vient nous sauver. Que la béatitude des pauvres, très facilement, soit comprise de cette manière-là, c'est net. C'est ce qu'on voit toujours. Jésus est au-dessus de cela, puisqu'il est la vérité. Il est le bien de mon intelligence, de mon cœur spirituel. Et il est celui qui peut seul satisfaire pleinement ma volonté humaine dans ce qu'elle a de plus spirituel et de plus profond, puisqu'il est le Fils bien-aimé du Père, et qui m'est donné en s'incarnant, qui m'est donné en me libérant du péché comme sauveur, et qui m'est donné sous cette forme particulière d'un homme parfait, d'un homme pauvre, d'un homme qui a voulu manifester à tous que seuls les biens spirituels et divins l'intéressaient, qui n'était attaché qu'à cela, et que le reste était secondaire. La vie physionomie même du Christ le montre tout le temps, à travers toute sa vie. Il a vécu en pauvre, non pas en mendiant, mais en pauvre. Pour bien montrer que le point de vue sociologique était quelque chose de tout à fait secondaire au point de vue chrétien. Et que le point de vue sociologique ne pouvait pas me faire entrer dans ce qu'il y a de caractéristique à l'éthique chrétienne. Ce qui est très important aujourd'hui à bien regarder. Et on pourrait dire la même chose au point de vue psychologique. La psychologie moderne ne comprend rien à l'esprit de pauvreté. Ce serait du reste très intéressant à bien regarder comment la psychologie contemporaine ne peut rien comprendre à la pauvreté, à l'esprit de pauvreté, à la béatitude des pauvres. Parce que la psychologie contemporaine regarde le comportement, le conditionnement. Regarde le comment de mes activités et ne va pas plus loin. Or, nous l'avons dit un instant, la béatitude des pauvres ne peut se comprendre que dans la lumière de l'amour et dans la lumière de la finalité. Seul la finalité qui est mon amour, qui éveille en moi un amour spirituel et personnel. Seule la finalité éclaire et me donne l'intelligibilité de cette béatitude des pauvres. Et donc, un regard qui ne dépasse pas le conditionnement et qui n'atteint jamais la finalité demeure complètement étranger à la béatitude des pauvres. Complètement étranger. La béatitude des pauvres est autre chose. Et jamais plan psychologique, je peux atteindre la béatitude des pauvres. Et c'est peut-être cela qui est le plus intéressant à regarder dans les béatitudes. C'est de regarder leur dépassement du point de vue sociologique et du point de vue psychologique. Essayez d'expliquer les béatitudes évangéliques à un niveau psychologique. Surtout la béatitude des pauvres. Parce que la béatitude des pacifiques, on pourrait encore arriver à trouver un petit lien. Mais la béatitude des pauvres, aucun lien du tout. Psychologiquement, ça apparaît comme un manque. Or, psychologiquement, on lutte contre les manques. Et on essaie par tous les moyens de supprimer les manques. Parce qu'on sait que les manques nous mettent dans des états d'irascibilité terrible. On fait tout ce qu'on peut pour supprimer le manque et on arriverait à la violence. Au point de vue psychologique. Tandis que la béatitude des pauvres ne peut s'expliquer qu'à un niveau d'amour personnel à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ. Vous voyez, l'amour humain, dans ce qu'il a d'humain, ne peut pas expliquer la béatitude des pauvres. pauvreté, ça on peut le comprendre. Mais on ne peut pas comprendre, à un niveau purement humain, que l'esprit de pauvreté soit béatifiant. Que l'esprit de pauvreté puisse être pour nous une plénitude. La béatitude, c'est une plénitude. C'est juste l'inverse. Alors, une fois qu'on a saisi ce dépassement par rapport au point de vue sociologique, psychologique et même éthique humaine, tout court, on comprend que seul un amour divin peut exiger l'esprit de pauvreté, peut engendrer l'esprit de pauvreté. Puisque c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle loi qui exige l'esprit de pauvreté. Il s'agit de comprendre que l'amour personnel à l'égard de Jésus engendre en nous cet esprit de pauvreté. C'est en aimant Jésus que la pauvreté apparaît en moi. C'est en aimant Jésus que cet esprit de pauvreté prend possession intérieurement de moi. C'est ça le propre de la vie chrétienne. Le philosophe doit constater ça. C'est pas une nouvelle loi. Les béatitudes ne sont pas une super loi. Les béatitudes sont engendrées dans l'homme comme un esprit qui provient de l'amour, qui provient de ce lien avec Jésus. C'est ce lien avec Jésus qui me rend pauvre. Mais ce n'est pas le lien avec Socrate qui me rend pauvre. C'est le lien avec Jésus. C'est donc par la béatitude des pauvres que je pourrai saisir le caractère propre de mon lien avec Jésus. C'est comme la propriété de ce lien propre avec Jésus. C'est comme la propriété de ce qu'est l'amour divin. Donc, c'est cela que le philosophe saisit et qu'il doit essayer d'expliquer. Il ne comprend pas, sauf s'il a l'expérience de l'amour du Christ. Mais tant qu'il n'a pas l'expérience de l'amour du Christ, il ne comprend pas. C'est un mystère. C'est quelque chose qui lui échappe. Il le sait. Il le sait, il le reconnaît. Il sait et reconnaît que c'est quelque chose qui lui échappe, qui lui dépasse. Et il sait aussi que c'est cela que le chrétien affirme. Que l'évangile du Christ affirme que c'est vraiment ce lien de disciple du Christ qui porte avec lui-même et directement par lui cette pauvreté évangélique. Cette béatitude des pauvres, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'application de la loi, c'est le dépassement de la loi. C'est l'accomplissement de la loi. La loi n'implique pas la pauvreté. Mais c'est l'amour du Christ et du Christ crucifié qui apporte cette pauvreté. Cela fait partie de la sagesse de la croix. La sagesse de la croix implique cette pauvreté spirituelle, cette pauvreté béatifiante. Parce que l'amour du Christ, qui est notre Dieu et notre Sauveur, réclame immédiatement que cet amour soit considéré comme l'absolu de notre vie. Ayant découvert le Christ, on n'a plus à chercher autre chose que le Christ, une autre personne. Ayant découvert Jésus, on n'a pas à chercher une autre religion. Jésus apparaît comme sauveur, comme celui qui nous donne lui-même le salut et la béatitude. Alors si c'est Jésus lui-même qui nous apporte ce bonheur et cette béatitude, chercher un autre supprimerait ce qu'il y a d'unique dans cet amour du Christ. Oui, et c'est pour ça que de l'extérieur, l'éthique chrétienne ou la religion chrétienne apparaîtra toujours comme intransigeante, puisque on sera contraint d'affirmer, mais contraint librement d'affirmer que, ayant découvert Jésus, je n'ai plus besoin de chercher ailleurs. Il y a quelque chose d'implacable, vous voyez. L'amour est plus rigoureux que l'enfer, les flammes de l'amour. Et c'est ça qui caractérise cet amour divin. C'est ça qui caractérise ce lien avec Dieu qui se révèle à moi. Et avec Dieu qui se révèle à moi en plénitude dans le Christ. Le chrétien qui ne comprend pas cela n'est pas chrétien. Il n'est plus chrétien. Il retombe dans la relativité. Il y a quelque chose de très absolu dans cette béatitude des pauvres. C'est ça qui en fait une béatitude. Et cela se comprend très bien, même philosophiquement, si Jésus est Dieu, si Jésus est le Sauveur, si Jésus est Dieu et le Sauveur, le lien d'amour qui me lie à lui librement me libère de tout le reste. Et donc me rend pauvre et me fait proclamer cette béatitude de la pauvreté. Cette béatitude de la pauvreté, c'est l'envers, si vous voulez, de ce lien d'amour qui me lie au Christ, qui me fait comprendre que l'exigence d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout nous-mêmes, c'est aimer Jésus. Parce que c'est lui qui est notre Dieu et notre Sauveur. Et que l'amour qui me lie à lui me permet de regarder tout le reste comme second. J'en suis libre. Donc la pauvreté à l'égard de tout ce qui n'est pas le Christ me libère, me rend libre. La béatitude des pauvres doit toujours se considérer comme la conséquence du lien d'amour avec Jésus, de la qualité unique de ce lien. Ce lien est unique. Ce lien a son originalité, a son caractère propre. Aimer Jésus, c'est aimer Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer l'homme. Et donc, me fait comprendre que aimer Jésus, c'est l'accomplissement parfait de l'amour à l'égard de Dieu et de l'amour à l'égard des hommes. Et si c'est l'accomplissement parfait de l'amour à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes, je peux dire que cet amour à l'égard du Christ me purifie entièrement de tout autre amour. C'est là et là seulement où je puis, où je dois arriver. Et où j'arrive en me cachant en lui, en voulant vivre.